Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Les rencontres de l'art.
Nicole Gibeault et Geneviève Peterson.
La rencontre Gibeault-Peterson.
Salut Nicole.
Bonjour Geneviève.
On va revenir sur l'affaire Gilbert Rozon qui a toutes sortes de ramifications. On parlait l'autre fois ensemble de Patricia Tulane qui a intenté une poursuite au civil contre Gilbert Rozon, 1,6 million de dollars, une poursuite qui a été déposée au printemps. Et là, au tour de Gilbert Rozon de poursuivre Mme Tulane, cette fois-ci, pour 150 000 $ Il nie l'avoir violée, mais même de l'avant, son attitude charmeuse dit qu'il avait une relation complètement consensuelle avec elle, une relation passionnée, intime.
Oui, on sait que Mme Tulane, d'abord, avait fait un recours civil, parce que c'est deux choses, criminelle et civile.
Bien sûr.
Alors, fait un recours civil au nom des courageuses. Donc, c'était un recours collectif qui n'a pas fonctionné. Mais on se souvient qu'il n'a pas fonctionné parce que les cours disaient c'est pas le bon véhicule. On peut pas tout embarquer ce monde-là dans le même véhicule parce qu'il y a des différences assez importantes et que chacune d'elles, c'est possible qu'elles aient des motifs, mais il faudrait les faire valoir individuellement. Ce qui a été fait depuis, parce qu'il y en a quatre au moins, ou trois, quatre, je me souviens plus exactement le nombre, mais il y a quelques femmes qui ont déposé des actions. Alors, Patricia Tulane, oui, est une de celles qui a déposé personnellement un recours à 1,6 million. Et là, ben, naturellement, c'est dans un dossier civil, donc il y a une demande, une défense. Et il a accompagné cette défense ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. Oui, c'est une poursuite, mais dans le même dossier. Alors, on dit non seulement je ne l'ai pas commis, je conteste vigoureusement, parce que j'ai la copie de l'exposé et des moyens de défense et de demande conventionnelle devant moi. Il conteste vigoureusement toutes les allégations. Mais évidemment, il dit pourquoi. Il s'explique dans une douzaine de paragraphes et se porte, on appelle ça se porter demandeur reconventionnel. Alors, on fait cette demande-là à l'intérieur de cette poursuite-là. Et là, il dit pourquoi il poursuit. Parce qu'il dit qu'elle abuse, c'est des abus de droit, diffamation, etc. Et que ça porte atteinte à sa réputation. Et que pour tous ces motifs, ben, il demande 150 000 $ Alors, c'est 150 000 $
Mais j'avais une question, moi, Nicole, sur ce montant-là. Il y a une méchante différence entre le 1,6 million de la demanderesse et le 150 000 $ que demande Gilbert Rozon. Est-ce que, on spécule, là, évidemment, ouais. Là, mais est-ce que c'est parce que Mme Tulane fait des démarches, entre guillemets, au nom des courageuses qu'on a une si grande différence de montant?
Ouais. La différence de montant est peut-être expliquée par l'analyse de la jurisprudence dans ce genre de dossier.
Okay.
Les avocats font des analyses puis disent en abus de droit, en ce genre de dossier qui porte atteinte à la réputation et dommages moraux, etc. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de façon véridique, pas juste jeter ou garrocher, si on me permet l'expression, un montant juste pour impressionner, mais bien quelque chose qui est réaliste. Alors, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on est allé là, parce que c'est sûr qu'on n'est pas aux États-Unis, puis peu importe là, qu'il y ait 1,6 million d'un côté, c'est pas comme ça, peut-être, que les tribunaux, après leur analyse, gèrent un abus de droit ou une libelle diffamatoire. C'est différent pour l'agression sexuelle qui est alléguée, mais monsieur...
On est encore dans cette dichotomie he said, ouais. She said, là, où finalement, c'est une question de point de vue, là, puis c'est la défense qui a servi Rozon dans une autre affaire, là, de dire, ben quasiment, c'est moi la victime ou je suis un irréductible séducteur, là.
Oui, ben c'est exactement. Même si on peut pas comparer, on se souvient qu'on avait entendu toute une autre version dans le procès criminel. Puis là, tout d'un coup, oups, c'était plus la victime alléguée, c'était devenu la personne qui s'était interposée à monsieur, puis qui s'était laissé faire. On s'en souvient là de cette de ceci, mais ça c'est au criminel. Ben évidemment, le fardeau de preuve, c'est bien de le soulever parce que le fardeau de preuve est très 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 différent. Le fardeau de preuve au criminel, c'est un fardeau hors de tout doute raisonnable, on le sait, on en a tellement entendu parler, mais le fardeau de preuve au civil, c'est par prépondérance de preuve, puis on se souviendra dans la poursuite de Mme Toulane au civil, elle a déjà pris de l'avance, en ce sens qu'elle dit, oui, j'ai pas fait ci, c'est-à-dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, j'ai retardé, oui, bon, elle devance là, peut-être les propos qui sont allégués dans la défense de M. Rozon en disant, il y a des motifs pour ça, je m'explique, et elle s'explique long en large là, pourquoi elle n'a pas fait ci. Parce que M. Rozon lui reproche d'avoir été séductrice, lui reproche pendant 23 ans que c'est vraiment une relation qui pouvait pas deviner parce qu'elle l'a même accompagnée, bon, et puis il a pas promis rien, puis etc. Donc, le fardeau de preuve étant très différent, ben on porte une attention bien particulière à l'ensemble de tout ça, puis c'est pas hors de tout doute raisonnable. On verra le poids de l'ensemble de la preuve de chacun là-dedans. Même si c'est un et un, là, souvent il y a d'autres témoins, souvent il y a d'autres situations, souvent il y a d'autres choses qui accompagnent la preuve. Alors, ça va être intéressant de suivre ça.
Un homme de la Naudière qui est accusé d'agression sexuelle sur une enfant de la DPJ. Et là, ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que les autorités tentent de retracer tous les enfants qui ont vécu dans la famille d'accueil, finalement, de cet homme-là.
Oui, puis c'est assez perturbant parce qu'effectivement, on pense au lien de confiance. On parle au lien qui existe. C'est pas juste le lien de confiance, mais c'est déjà pas facile, j'imagine, de s'en aller dans un foyer, puis t'es séparé pour des raisons X, là, de ta famille, peu importe, et que tu te retrouves avec dans un foyer d'accueil, puis tu sais, il me semble que moi, foyer d'accueil, c'est comme, c'est un extra chaleur, là, tu sais, humaine, là, parce que t'as déjà, t'es rendu là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Peu importe ce qui est arrivé, là.
On va le nommer, Nicole, cet homme-là, Alain Lavallée, 56 ans, police est à la recherche de potentielles victimes.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est bel et bien écrit dans le dossier, dans le papier d'enquête, là, sur c'est bien lui. Puis on demande vraiment aux gens de un effort, là, tout le monde qui aurait passé c'est une demande là, qu'on fait dans ce sens-là. Puis je pense que ça peut qu'aider s'il y a des gens qui évidemment ont des dénonciations sérieuses. Mais là, on parle d'agression sexuelle répétée sur un enfant, tout au moins, là, dans cet article-là.
Un enfant de 12 ans.
Un enfant de 12 ans, évidemment, il a été, là, encore une fois, là, il est remis en liberté, avec des conditions.
Ouais, c'est-tu qu'est-ce qui est poche là-dedans, je trouve, nonobstant le fait, évidemment, qu'il y a eu des enfants possiblement agressés, là, en bon nombre, là, puisqu'on prend la peine aujourd'hui de faire un appel comme ça, c'est qu'on a cette famille-là d'accueil qui accueille des enfants pendant 20 ans et ça jette toujours une espèce d'image négative sur les familles d'accueil de la DPJ. T'sais.
Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est souvent, tu sais, peut-être que juste une pomme, là, puis c'est vrai qu'il faut pas généraliser parce que premièrement, ils ont besoin de familles d'accueil, de bonnes familles d'accueil. Puis de façon générale, je pense qu'on peut penser, j'ose espérer qu'on peut penser que c'est vraiment majoritaire, là, que ça devrait et ça n'existe, devrait jamais exister. Mais malheureusement, on en a des exemples. Il faut les dénoncer, puis faut essayer de trouver s'il y a des gens qui se souviennent d'avoir été dans cette situation-là et qui se sentent en sécurité, mais pour toutes sortes de raisons, ont subi des agressions.
Bon, Nicole, fidèle à notre nouvelle tradition, bonne nouvelle judiciaire du vendredi.
C'est tellement intéressant, ce projet-là. Je me suis intéressée au projet, puis j'ai lu là-dessus. On appelle ça le projet LEAD. Alors, c'est un projet qui s'occupe des jeunes en cinquième année. Les procureurs de la Couronne se rendent dans une école. Et là, je m'explique, là, c'est créé, oui, c'est vrai que c'est créé en 2015, puis c'est à partir d'un projet de Los Angeles. Et qu'on fait, c'est que les procureurs de la couronne vont dans une école, puis c'est pour les outiller les jeunes de cinquième année, là. Sur quoi? Sur la résolution de conflits, l'importance de faire des choix dans la vie, des choix, t'en es dans drogue, pas dans drogue, avec des, tu sais, des individus. J'imagine qu'on parle de tout ceci en matière criminelle, évidemment. Ils ont une quinzaine de séances. Je pense que, ce que j'ai cru comprendre d'après mes recherches, là, qu'il y a à peu près 3500 élèves des quatre coins du Québec qui, à date, ont passé par là, puis on discute avec eux de toutes sortes de choses, du code criminel, de la loi de la protection de la jeunesse, des préjudices, des stéréotypes. Tu sais, qu'on disait que l'intervention, ça devait commencer très jeune pour les agressions sexuelles, etc. Ben, dans les circonstances ici, effectivement, on comprend que, on parle de ceci et, ce qui est super intéressant, c'est qu'en bout de ligne, on fait ce qu'on appelle un procès simulé. Puis j'ai vu les photos, j'espère que tu as eu la chance de regarder les photos, parce que c'est sûr que ça a été mis sur pause pendant la pandémie, mais oui. On va le reprendre, là, parce que c'est trop un beau projet. Puis tu vois les petits-enfants, tout habillés avec des toges, des rabats, avec les là, il y a une juge, une petite, hey, c'est incroyable. Puis ça s'investit là comme ça, se peut pas. Puis ils vont faire un procès avec tout après 15 semaines là, ou je sais plus combien maintenant ils vont en donner.
Ils vont
là.
Jouer à la cour.
Ils vont jouer à la cour. Ah. Puis ils ont eu une formation avant là. Ils ont tout eu la petite formation. Puis hey, ils prennent ça au sérieux. Puis c'est sérieux là pour eux autres. Là, puis ça vaut la peine. Alors, est-ce qu'ils vont les trouver coupables, pas coupables? Vas-tu leur mettre en liberté, etc.? Puis les expressions, puis les commentaires qu'on voit et qu'on entend là-dedans, c'est vraiment exceptionnel. Puis je fais une parenthèse. Moi, j'ai fait des conférences dans les écoles secondaires. J'ai jamais tant eu de monde aux conférences. Et on m'avait averti qu'à, mettons, 3h10, la cloche sonnait, là.
Oui, puis c'est
et
fini.
Et que de m'enlever de la porte, là, parce oui. que ça sort, ça n'a pas de bon sens, ben, il n'y en a pas un qui est sorti.
Bon, ben, j'avais tu vois, puis...
Regarde, là.
On parle c'est souvent de rebâtir la confiance dans plein de dossiers, rebâtir la confiance envers le système de justice. Je pense que ce type d'initiative-là, ça peut contribuer à ça, à démystifier
ouais,
aussi le travail.
Bravo au DPCP.
Exactement. Nicole, merci, bon week-end. Va t'occuper de tes chiens, là.
Oui, on les avait entendus.
Mais moi, ça me dérange pas. Toujours plus de chiens à l'émission. Bye, bye, Nicole.